Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
L'écrivain et savant Louis Massignon fut le titulaire entre 1926 et 1954 de la chaire Sociologie et sociographie musulmane au Collège de France. Il traduisit et fit connaître le mystique Al-Halaj, ce martyr de l'islam, exécuté à Bagdad en 922. Le plus beau cas de passion humaine que j'eusse encore rencontré, une vie tendue tout entière vers une certitude supérieure, écrivait à son sujet Louis Massignon. S'il y a une urgence pour la pensée humaine, c'est bien de relire aujourd'hui l'œuvre de Massignon, l'un des plus grands islamologues du XXe siècle, né en 1883 et mort en 1962. Cette œuvre est publiée en deux volumes dans la collection Bouquin, sous le titre « Écrits mémorables » et contient 178 textes, pour certains inédits, établis, présentés et annotés sous la direction du grand spécialiste de la philosophie islamique, Christian Jambet. Nous allons tout de suite écouter Louis Massignon, qui parlait en 1955 au micro de Jean Amrouche, de Mansour Al-Halaj.
La radiodiffusion Télévision Française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez une présentation du poète mystique arabe Hussein Mansour Al-Halaj par Louis Massignon. Il est superflu de présenter aux auditeurs de cette émission l'illustre arabisant Louis Massignon, professeur au Collège de France. La figure de Louis Massignon est, je dois m'excuser de le dire en face de lui, est l'une des plus éclatantes, l'une des plus profondes de ce temps. Cet homme, qui est universellement admiré et même vénéré dans le monde musulman, nous frappe par l'extraordinaire profondeur de sa pensée, par une aptitude surprenante à pénétrer dans l'intimité des pensées mystiques de toutes les religions. Aujourd'hui, Louis Massignon me fait et vous fait le très grand honneur de parler d'un poète qui a exercé sur sa vie, sur sa destinée, une influence déterminante. On dit que la conversion de Louis Massignon a été en grande partie favorisée, sinon déterminée, par la découverte d'Al-Halaj. C'est donc un entretien d'une nature assez particulière que Louis Massignon a bien voulu m'accorder et vous accorder ce soir en acceptant de parler d'un poète et d'un mystique pour lequel il a une toute particulière vénération, un poète et un mystique auquel il est lié par des liens si intimes qu'il est difficile de croire qu'il puisse être vraiment exprimé sans être dénaturé par le langage improvisé. Mais Louis Massignon est capable de tout ce dont nous ne serions pas capables. Louis Massignon, je vous donne la parole.
J'ai rencontré Al-Halaj un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie. et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis, qui pensait à d'autres genres de vie, et qui savait merveilleusement l'arabe, et qui était devenu musulman, me dit, mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable. Nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu. Mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint et qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice de la croix, pour l'amour de Dieu. Et il m'a tendu un livre. Ce livre, c'était en persan. Car quoique ce mystique dont nous allons parler est écrit en arabe et n'est probablement pas su le persan, il était né en Perse. Et c'est en Perse qu'on s'est souvenu de lui le plus, de même que c'est en Perse qu'on s'est souvenu le mieux du supplice de celui dont il portait le nom, le petit-fils du prophète, Hossein tué à Kerbela. Je pense de plus en plus que c'est par sa mère que Hallaj a porté ce prénom de Hossein. C'est la mère qui donne le nom à l'enfant et elle lui donne son destin. Elle le conçoit, elle ne le comprend pas. Hallaj avait donc été surtout célébré par de grands poètes persans, par Hafez et avant par Attar. Le livre que mon ami me présentait était le Mémorial des Saints de Attar, dans une très belle traduction française de Pavette Courteil, d'après une traduction ouïghour, ce qui est encore plus cru. Et Pavette Courteil avait laissé dans le texte ouïghour certaines sentences en arabe, qui m'intéressaient plus puisque j'étais un arabisant et qui m'aidaient à comprendre le reste. Et une de ces sentences me frappa comme une flèche. C'était « Raka'atani fil ishqi la yusihu wudhuhuma illa biddam ». Il suffit de deux prosternations dans la prière légale de l'amour, mais pour qu'elle soit licite, qu'elle soit valide, l'ablution doit en avoir été faite dans le sang. C'est une phrase dure que seuls ceux qui ont vécu au désert, participé à des expéditions incertaines dans des pays de peur et dans des coins de razzia peuvent comprendre. Mais cette phrase dure m'a frappé. Et dans toute mon incrédulité à ce moment, dans l'infrarationnel de l'imagination qui aide à former, à construire la forme de beauté éternelle de notre vie, j'ai senti qu'il y avait là la pierre fondamentale. Et avec une certaine fantaisie, je me suis dit, ça peut être amusant d'écrire à l'Anatole France cette idée bizarre d'un musulman qui ne croit pas que Dieu soit accessible et qui est mort d'amour pour lui, qui s'est livré à la mort pour l'amour de Dieu, défendant que Dieu doit être aimé. Je ne comprenais pas à ce moment-là toute la doctrine de Hallaj. Cet homme qui a vécu, qui est mort en 922 de notre ère, à Bagdad, après un procès célèbre à la cour du calife, était un homme qui, en même temps, avait été un très grand théologien de la mystique, pas seulement un mystique expérimental, mais comme on l'a dit souvent, Malik Halihi, c'est-à-dire qu'il dominait son extase. Et comme Eckhart, c'est à peu près le seul homme que nous puissions trouver en dehors, et c'est Meister Eckhart. Hallaj avait défini, et il disait que Dieu est l'essentiel désir. Et je crois que cela va extrêmement loin, car c'est cela même l'immortalité. Dieu ne peut pas être un rassagiment, mais un désir. Claudel m'objectait que ça ressemble assez à l'enfer, et à ce sujet-là, je citerai un poème de Hallaj. « Uriduka, la uriduka lissawabi » Je te désire, mais je ne te désire pas pour la liesse des élus. Non, mais je te désire pour ma damnation. Tous les biens qui m'étaient nécessaires, oui, je les ai reçus. Sauf celui qui ferait J'exultais mon extase en plein supplice. Vous remarquerez que là, ce n'est pas du tout de la littérature romantique. Ce que Hallaj veut dire, c'est que ce que Dieu donne à ses véritables amants, c'est son esseulement, sans sa gloire. Dieu tout esseulé, sans ses attributs divins, rien, encore une fois, que d'être là, présent, au fond du cœur. À cet égard, voici un autre poème de Hallaj. Hawaitu bi kulli kulla kullika ya Qudsi. J'ai étreint de tout mon être tout ton amour, ô ma sainteté. Tu me mets à nu tant que je sens que c'est toi en moi. Je retourne mon cœur parmi tout ce qui n'est pas toi, mais je ne vois plus rien qu'effarouchement de moi à eux et familiarité de toi en eux. Ah, me voici dans la prison de la vie, environné des humains. Arrache-moi donc vers toi, hors de la prison. Cet appel de Hallaj, qui à ce moment-là retentit dans mon cœur, me fit désirer aller à Bagdad où il était mort. Je voulais recomposer le cadre de la contemplation de son supplice. Quoique c'est il eu à Milan que ce fut, et c'était en 1906 que j'ai conçu ce dessin. Il s'est trouvé par hasard que sans que j'en ai parlé à personne, car les choses profondes on n'en parle à personne, il me fut proposé de faire une mission à Bagdad. J'étais à ce moment-là membre de l'Institut archéologique du Caire. Il n'était pas question, on n'en avait jamais fait de mission en Mésopotamie. On m'en offrit une. Et je sentis à ce moment-là, je me sentis pris par mon destin. Non pas que je crus à rien, je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais pris dans un mouvement comme un bateau qui décroche les ancres et qui tourne vers le large. J'avais levé l'ancre sans l'avoir désiré. Je l'ai senti remontant le Tigre vers Bagdad après 23 jours en bateau sur un petit cargo anglais. Je montais avec des pèlerins qui allaient à Kerbela, des pèlerins persans. Eux allaient aussi vers le pèlerinage d'un mort, et moi j'allais vers le pèlerinage de ce crucifié de l'amour divin. Et il se trouva que, passant devant l'arc de triomphe de Khosroès, je passais, que je reconnus, et qui cette année-là perdit la moitié de sa façade, je me trouvais, c'était l'endroit où la croix avait été placée prisonnière et remportée triomphalement par Héraclius juste avant l'islam. Et c'est là que 6 mois plus tard, je me trouvais atteint par Dieu, obligé dans des circonstances très cruelles, puisque j'étais condamné à mort comme espion, à revoir toute ma vie, car la montrer aux hommes, il n'était pas digne de la comprendre. Je compris Hallaj, je compris quel était cet appel que Hallaj m'avait fait, et dans la solitude de mon âme, je me trouvais l'appelé, et parmi les noms des gens qui ont permis à ce moment-là devant Dieu que je survive à ma faute et à mes péchés, il y avait, je l'ai su, directement dans mon cœur, le nom de cet homme 1000 ans mort 1000 ans avant, d'un musulman discuté, contesté, traité d'hérétique. Il est très difficile de n'en parler calmement. Il y a 2 ans, un de mes amis persans a publié à Kaboul, en Afghanistan, où on m'aime bien, il a publié une traduction d'une étude de moi sur Hallaj. On l'a distribué en 100 exemplaires à la haute société de Kaboul. Et le comité de surveillance religieuse a fait dire que si ce n'était qu'une étude de littérature ou d'histoire, c'était très intéressant et très beau, mais que cela pouvait amener des rixes et des batailles et qui ne permettait pas qu'on le fasse circuler. Un poète, un mystique, a dit « Au jour du jugement, Hallaj sera amené enchaîné, car selon cela, tout le monde se battrait. » C'est vous dire, n'est-ce pas, l'accent que cette biographie étrange a. Je ne peux pas parler de sa vie cette fois-ci, je vais parler simplement de ses vers.
Oui, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que Hallaj avait choisi de mourir crucifié. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce propos qui est assez curieux ?
Il a écrit un très joli poème à cet égard. que Mursi, qui est le patron d'Alexandrie, un grand saint chadili, donc un saint d'origine tunisienne par la filiation, a dit, c'est le poème qui est intitulé, enfin, dont le premier vers en arabe, Allah ablir ahibbahi bi anni rakabtul bahra wa inkasar as-safina. Oui, va-t'en prévenir mes amis que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise. C'est dans l'instance suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus aller ni à la Mecque ni à Médine. C'est dans le sens de la croix comme un supplice et d'une condamnation que Allah choisit ce genre de mort. On lui répondit d'ailleurs, mais est-ce que tu es un infidèle puisque nous ne croyons pas à la croix dans l'islam, que tu choisisses la croix pour mourir? Des gens ont cru que c'était une conversion au christianisme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est trouver au fond de l'islam ce qui est la même chose que dans le christianisme, c'est-à-dire l'indignité de la créature pour le témoignage de l'inaccessible divinité. Et une autre fois, il l'a dit à Arafat. Vous savez que Arafat est l'endroit central du pèlerinage musulman. Le pèlerinage musulman, c'est l'offrande du sacrifice d'Abraham. C'est l'offrande de l'agneau qui a été substitué, ou de la chamelle qui a été substituée à l'enfant d'Abraham. Cette substitution n'est que provisoire, car il est dit dans le Coran, Bidabhin Azimin, je substituerai à ton fils qui sera sauvé une grande victime. Un agneau n'est pas une grande victime. Les chiites ont toujours pensé que ça devait être Hossein à Kerbela. Pour moi, cela a été Hallaj qui s'appelait aussi Hossein. En ce sens que Hallaj a dit lui-même un jour à Arafat, qui est l'endroit où on dédie le pèlerinage, c'est le 9e jour de Dhul-Hijja, on est là au Djebel Rahma, c'est-à-dire à la montagne de la miséricorde, et il y a deux prières, raka'atan, précisément, comme celle de la phrase qui m'avait touché, il suffit de deux raka, de deux prosternations, et ces prosternations consistent à dédier l'agneau qu'on immolera le lendemain. Mais la conviction musulmane est qu'avant même que l'agneau soit immolé, la miséricorde de Dieu descend et on allume les cierges en bas, à Mina, en signe d'acquiescement, d'avoir senti descendre sur la communauté musulmane la miséricorde. Et ce qui est particulièrement émouvant, c'est que Allah a déjà dit à ce moment-là, « Oh mon Dieu, uskur nafsek anni, fa nashukr l'arrière. Remercie-toi en moi, car c'est cela l'action de grâce. » Et s'offrant pour être la debiha, s'offrant pour être la victime, ce qu'il a été, puisqu'encore une fois, il a été tué à Bagdad. Voilà dans quel sens il s'est offert à mourir.
Oui, en somme, vous pensez qu'il s'agit de la part de Hallaj de l'accomplissement suprême de la foi qui est comme une reproduction avec lui-même, comme offrande et comme victime, du sacrifice d'Abraham, mais alors le sacrifice d'Abraham qui aurait été, dans l'accomplissement même, poussé jusqu'au bout. Parce que vous connaissez naturellement, et certains de nos auditeurs connaissent certainement, la méditation de Kierkegaard sur le sacrifice d'Abraham, et qui est une méditation qui va très loin, car il est bien évident que lorsque Abraham accomplit l'ordre de Dieu et qu'il lie son fils et qu'il prend le bois et qu'il monte au lieu où le sacrifice doit être accompli, a effectivement accompli le sacrifice dans son âme. Le sacrifice est totalement accompli et ce n'est que lorsque cet accomplissement intérieur du sacrifice est vraiment total que Dieu accomplit lui-même la substitution. La substitution n'a de sens que si dans l'âme d'Abraham le sacrifice est totalement accompli.
Exactement cela, monsieur Amrouche, que je crois que Allah a vu. Un de mes amis, Mortar Katir Djoglou, disait à une chrétienne, mademoiselle Mere Kahil, que Allah a réalisé le mythe du calvaire. Ce qui était une rosserie à l'égard du chrétien que je suis, de la chrétienne qu'elle était, je lui ai répondu, cela ne me fait pas peur. Le calvaire n'est qu'un mythe pour tout chrétien qui ne se substitue pas, comme le dit Kierkegaard.
Oui.
Alors, il y a là, n'est-ce pas, ce que j'appellerais même la destruction de la croix auquel les musulmans veulent procéder. La croix n'est pas encore une fois un supplice sadique et perpétuel, n'est-ce pas? Et dans l'idée de Hallaj, il y a une certaine joie. Il a dit d'ailleurs en allant au supplice, Jamal el Jalal el Jalib ilayhi ahl el wissal. La beauté de la gloire qui entraîne vers Dieu ceux qui désirent l'union, n'est-ce pas?
Bref, vous considérez essentiellement Hallaj comme un amant de Dieu, vous le considérez essentiellement comme un mystique et non pas comme un poète mystique. Il est poète en quelque sorte par accident, parce que de temps à autre, il faut qu'il parvienne à découvrir la forme qui exprimera son expérience et qu'il se trouve que la forme la plus dense, la plus adéquate, disons la moins indigne du langage, soit précisément cette forme suprême que le langage revêt dans la poésie, mais qu'il ne recherche pas du tout la poésie pour elle-même, la beauté pour elle-même. Ce n'est pas, disons, un littérateur.
Ce n'est pas un littérateur et ce n'est même pas un platonicien. La chose très particulière, c'est que c'est tout de même un homme, c'est un croyant d'abord, formé par la religion d'Abraham. Ne pas oublier que l'islam, 5 fois par jour, s'adresse à Abraham, que s'il y a une religion primitivement abrahamique, c'est resté l'islam, à l'état naissant, si je puis dire. Or, cette méditation de Hallaj à Arafat, c'est celle, en effet, qui lui a fait germer la poésie. Jusque-là, il n'avait fait, jusqu'à l'année où il a fait une sorte de prédication jubilante dans les rues de Bagdad pour s'offrir à la mort, et d'ailleurs on l'a arrêté assez vite. C'était en effet une provocation, puisqu'il disait qu'il mourrait en croix, enfin toute espèce de choses qui sont de l'infidélité, aux yeux des théologiens bouchés. Le Hallaj se trouvait avoir, d'une manière très particulière, cette idée que on ne doit pas s'exprimer poétiquement volontairement. Il y a été obligé. Et là, alors, il faut intervenir une question très particulière que les musulmans connaissent et en arabe a été dit admirablement. C'est un poète bédouin, qui l'a dit par un proverbe. L'homme qui se tait refuse. La femme qui se tait consent, n'est-ce pas? L'âme est féminine. On ne peut concevoir Dieu que dans le silence. Mais il faut bien l'exprimer quand on l'a conçu. Et c'est pour cela qu'il a crié son extase dans des poèmes qui n'ont d'analogue, je dois dire, dans aucune littérature. C'est d'ailleurs ce qui frappe ceux qui lisent le divan de Hallaj. Il n'y a pas d'image charnelle. C'est dans le spirituel, mais réalisé et présent, c'est la brûlure de la présence et cette chose à la fois insoutenable et divine qu'est l'amour.
Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin ce soir. Je m'en vais simplement me contenter de lire un de ses poèmes, si vous voulez bien, dans la très belle traduction que vous en avez faite et qui vient de nous être procurée par les éditions des Cahiers du Sud. Et si vous voulez bien, la prochaine fois, nous parlerons alors plus précisément de la poésie d'Al-Hallaj, c'est-à-dire du divan que vous avez traduit. Le poème que j'ai choisi est un poème relativement long. C'est la 10e qasida dont le titre français est « Tuez-moi donc mes féaux camarades ». Tuez-moi donc mes féaux camarades, c'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort, c'est de survivre et ma vie, c'est de mourir. Je sens que l'abolition de mon être est le plus noble don à me faire. Et ma survie telle que je suis le pire des torts. Ma vie a dégoûté mon âme parmi ces ruines croulantes. Tuez-moi donc et brûlez-moi dans ces eaux périssables. Ensuite, quand vous passerez près de mes restes, parmi les tombes abandonnées, vous trouverez le secret de mon ami dans les replis des âmes survivantes. Je suis un patriarche et du plus haut rang. mais je me suis fait petit enfant dans des girons de nourrice, tout en reposant sous la dalle d'une tombe dans des terres salines. Ma mère a enfanté son père, voilà bien une merveille mienne, et mes filles que j'avais engendrées sont devenues mes sœurs, sans que ce soit dans l'ordre du temps, ni par le fait des adultères. Réunissez donc ensemble mes parcelles, les prélevant de corps cristallins, d'air, de feu et d'eau pure, ensemencez du tout une terre non irriguée, puis irriguez-la en faisant circuler les coupes, des servantes verseuses et des ruisseaux courants. Alors, au bout de 7 jours, une plante parfaite germera. Il me semble que il n'est peut-être pas utile de donner un commentaire de ce poème. En fin de cette émission, il suffit à donner une idée à peine approchée, une idée lointaine de l'extraordinaire profondeur, de l'extraordinaire densité, du pouvoir de réalisation de ce langage si violemment dépouillé et qui semble arraché à l'âme même, à la substance même de l'esprit. Ce soir, Louis Massignon va nous parler d'une façon plus précise de l'œuvre d'Al-Hallaj, c'est-à-dire du divan que Louis Massignon vient de publier au Cahier du Sud, avec une préface et un commentaire. Je lui donne tout de suite la parole.
Samedi dernier, j'ai essayé d'expliquer que toute la vie d'Al-Hallaj avait été offerte par lui dans le cadre du mémorial du sacrifice d'Abraham à Arafat, le jour où il avait dit à Dieu « Ushkur nafsek anni, remercie-toi en moi de toi-même ». C'est là la véritable action de grâce. La vie de Hallaj est une action de grâce, c'est donc Dieu d'abord qui parle, mais c'est pour la joie des autres. Et à Arafat, il y a cette coutume extrêmement émouvante que les pèlerins crient les noms des absents. Parce que c'est la seule action qui, en islam, soit une action vicariale, où on représente tous les autres. Ils crient les noms des absents et de tous ceux qu'ils aiment pour qu'ils soient représentés dans leur sacrifice le soir. Et il y a un proverbe algérien qui dit « Il y a deux colombes qui ont soif toute l'année et qui ne s'abreuvent qu'une fois par an. Ce sont les deux rekas, les deux prières brèves, les deux prosternations brèves qu'on fait à Arafat lorsqu'on appelle les siens pour le sacrifice. » Alors Hallaj a donc pensé aux autres, et c'est pour les autres, pour toute la communauté musulmane, pour le monde entier, pour lequel il considère, que avec Mohammed, que le sacrifice d'Abraham est commémoré à la Mecque, car l'islam est universaliste et fondamentalement, ce que nous ne devons pas oublier, ils se considèrent comme chrétiens et comme juifs, ils considèrent qu'ils ont l'ensemble, parce qu'ils sont abrahamiques et qu'ils s'en souviennent plus que les autres. Hallaj se trouve, dans ses poèmes, s'adresser d'abord à des amis, mais c'est d'une manière assez particulière. Il n'y a pas de visage évoqué, c'est simplement le lien, ce lien primordial que d'autres poètes arabes avaient dit, comme par exemple Majnoun, « Tualaka ruhi ruhaha qabla khalaqana » lié à mon esprit avant que nous fussions créés, ou bien ce qui a été dit par Ibn al-Farid si magnifiquement, « Sharibna la zikri al-habibi mudamatan sukirna bihi min kablan yurtlaq al-karm » Nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous avons été enivrés avant la création de la vigne, n'est-ce pas? Cette idée du lien d'amitié primordial qui est essentiel dans l'islam, et spécialement dans l'islam mystique, Hallaj le marque par ses lettres et ses confidences. Voici par exemple une lettre à son ami Ibn Atta. Ibn Atta est un homme qui s'est livré à la mort pour son ami pendant le procès, en allant dire devant le vizir ce qu'il pensait de l'infamie des motifs invoqués, et il a été battu jusqu'à la mort, et ça a même entraîné, si je puis dire, l'exécution de son ami. Un autre ami de Hallaj a reçu comme toute consolation, comme adieu de Hallaj avant la mort de la Hallaj, viens donc toi aussi détruire ta Kaaba. Détruire sa Kaaba, c'est-à-dire détruire le temple de ton corps. Et l'autre a compris, est revenu un an après sa mort et s'est livré au bourreau à Bagdad. Voilà la lettre, la dernière lettre de Hallaj à Ibn Atta. Kataptu wala maktub ilaik. Je t'ai écrit sans t'écrire à toi, car j'ai écrit à mon esprit sans rédiger de lettres, parce que l'esprit divin, rien ne peut le séparer d'avec ceux qui l'aiment, comme le fait la conclusion qui clôt la missive. Aussi, toute lettre émanant de toi ramène ainsi vers toi, sans renvoi d'aucune réponse, sa réponse. Un autre poème qui est un peu dans le même cadre, c'est ce poème qui se trouve parler de Dieu, mais à un ami. Antal muwallihulli la hubbu wallahanj. C'est toi, mon ravisseur, ce n'est pas l'oraison qui m'a ravi. Loin de mon cœur l'idée de tenir à mon oraison. L'oraison est la perle médiane d'un gorgerin orfévré qui te dérobe à mes yeux dès que ma pensée s'en laisse ceindre par mon attention. Un autre encore vous montrera de quelle manière Hallaj se trouve avec ses amis seul dans le monde. C'est le poème El Hubbu Madama Maktouman à la Khatarin. L'amour, tant qu'il se cache, se juge en grand péril, et tu ne prends confiance que si tu vas frôler le risque, et l'amour n'embaume-t-il pas davantage quand le souffle des calomnies le répand, tel le feu qui ne sert à rien tant qu'il couve dans la pierre. Et maintenant que le geôlier arrive, que les policiers s'attroupent et que le dénonciateur leur a donné mon nom, j'en viens à désirer que mon âme soit dispensée de ton amour, comme si je pouvais réussir à me dispenser de toi, ô mon oui, ô ma vue. Un dernier qui exprime encore le dialogue, mais ce n'est presque plus une confidence à un ami, c'est ce que j'appellerais plutôt la visitation d'un ange. Madattu ila rahmani mi faqatin khumsi. J'ai étendu vers le Dieu clément misérablement mes cinq doigts, et une voix humaine dans le secret pudique de mon âme m'a parlé de moi-même, et cela à cause de la joie en moi à le commémorer. Pourtant ce n'est pas à mes pères de se plaire parmi les humains, mais c'est que cet espion qu'il a en moi contre moi-même s'en était allé sur la brise de la joie jusqu'au verger de la sainteté. Maintenant, nous pouvons passer au poème d'extase proprement dit. En voici un où il feint de représenter la prétention de Satan à l'extase. Car dans la théorie de Hallaj, qui est très profonde, c'est que Satan s'est pris au piège de cristal d'une définition de l'amour de Dieu qu'il a voulu imposer à Dieu comme un cadre. Il n'est plus pour moi d'éloignement de toi, depuis que j'ai constaté que rapprochement et éloignement ne font que, pour un spirituel, l'absence n'est pas une séparation. Pour moi, si je suis délaissé par toi, c'est encore une société pour moi que ton délaissement. D'ailleurs, comment ce délaissement s'opérerait-il, puisque l'amour fait trouver ? Gloire à toi qui as tout prévu, en ta perfection pure, pour que ce serviteur pieux ne se prosterne devant nul autre que toi. Il y a là une espèce de position de gladiateur et de combat contre Dieu, de la guerre sainte suprême, car pour les musulmans, Hallaj est le guerrier de la guerre sainte suprême et qui, encore une fois, se bat contre le destin que Dieu lui impose. Il y sera forcément inégal, mais il se bat à hauteur. En voici un autre. C'est au sujet de ce problème très mystérieux qu'on représente par l'opalisation dans la coupe de l'eau par la goutte de vin qui y est répandue et qui s'opalise. C'est le mélange, si on peut parler de mélange. ce mélange de l'âme avec la divinité inaccessible. Ton esprit s'étant mêlé à mon esprit, comme l'ambre s'allie au musc odorant, que l'on te touche, on me touche. Ainsi c'est moi, plus de séparation. En voici une autre très saisissante également, c'est le phénomène des larmes. Rusbrock a dit que celui qui pleure, c'est celui qui sait. Les femmes le connaissent bien. Quoique les femmes soient expertes à avoir des pleurs mensongers, elles savent très bien que quand elles pleurent seules, c'est parce qu'elles savent. Tu es là entre les parois du cœur et le cœur, tu t'en échappes comme les larmes glissent hors de mes paupières, et tu deviens la conscience personnelle au-dedans de mes entrailles comme les esprits s'infondent dans les corps. Ah, rien d'immobile ne se meut sans que toi tu ne l'émeuves par quelque ressort secret. Ô croissant de lune qui te montre dans ta perfection le 14e jour, ajoutant ainsi 8 et 4 aux 2 de ta réapparition.
Que signifie cette allusion numérique ?
C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est ce que les Allemands appellent Zahlspielerei. N'est-ce pas ? C'est une plaisanterie sur des nombres. Vous savez que toute la langue arabe, toutes les langues sémitiques sont marquées par le secret des nombres qui figurent les lettres de l'alphabet et qui ont donc la base, non pas d'une cabale, mais d'une exégèse nombrée des mots.
Est-ce qu'il y a quelque rapport entre cette exégèse nombrée des mots et certaines doctrines ésotériques, disons le pythagorisme par exemple?
C'est, je crois même, je dirais, le secret du pythagorisme, de même que le poème que M. Hamouche a choisi pour le premier samedi était un poème qui a l'air alchimique, de même, ces allusions au nombre dans Hallat dépassent le pythagorisme. Ainsi, sa vie, qui est très étrange, se termine en l'année 309 de l'Égir. 309, c'est Tassin. Tassin, c'est deux initiales du Coran. Quand on écrit, n'est-ce pas, en lettres, les nombres, on écrit 309 Tassin. Or, Shin, Tav, c'est l'inverse de Satan, n'est-ce pas? Et d'autre part, ce qui est très étrange, c'est que c'est le nombre du sommeil des sept dormants, et qui sont la clé de l'histoire musulmane et de l'apocalypse de l'islam. Et Hallaj, d'ailleurs, avait une dévotion particulière pour les sept dormants, et il est mort l'année des sept dormants.
Vous parlez des sept dormants d'Éphèse, oui. Mais je crois que vous devriez en dire quelques mots, des sept dormants auxquels vous avez consacré, d'ailleurs, un opuscule publié cette année, et que j'ai lu avec le plus vif intérêt, sans peut-être toujours tout comprendre.
Le problème des sept dormants qui fait rire mes collègues au Collège de France, c'est pas, ils se demandent pourquoi j'ai pris au sérieux cette légende qui d'ailleurs est crue par toute l'Antiquité chrétienne depuis l'Abyssinie jusqu'en Sibérie et qui se trouve actuellement être la liturgie de l'islam chaque vendredi, ce qui est une chose unique. Cette chapitre des sept dormants est lié de façon mystérieuse avec Hallaj par ce nombre 309. Et il est lié aussi, ce qui est très étrange, avec Fatima, puisque c'est le nombre de la dynastie Fatimite, et que la dynastie Fatimite a célébré sa sortie de la caverne de la persécution en Mahdiya, en Tunisie, lorsqu'ils ont fondé leur capitale, et c'est en 309, à Mahdiya, où ils étaient depuis quelques années déjà, qu'ils ont fait la fête. Il y a là un phénomène très étrange qui n'existe qu'en islam, c'est qu'il y a eu des révoltes pour la justice à certaines années qui numériquement représentaient des années coraniques. Il y a eu une révolte fatimite en 290, parce que 290 c'est le nom gnostique de Fatima, la fille bien-aimée du prophète, la mère de Hussein, l'autre Hussein qui a été tué à Karbala, et c'est en même temps le nom de Marie, Maryam. Or, comme dans l'islam chiite, Marie est inséparable de Fatima, que les douleurs de Fatima sont les douleurs de Marie, et que la prière solennelle que les chiites disent chaque matin, qui est « Ô toi, dame des douleurs, dont on a ignoré la grandeur, qui a été méprisée, c'est à cause de cette gloire secrète que nous t'invoquons », de même, les révoltés, les rebelles chiites ont choisi ces années-là pour des insurrections. Al-Hajj a-t-il été chiite? C'est le grand problème. Les chiites le pensent, les sunnites le nient. Les chiites de son temps l'ont fait exécuter. C'est là un point sur lequel je ne peux pas insister davantage, mais je vous remercie de m'avoir permis de poser la question.
Je vous en prie. Mais je voudrais bien que nous reprenions. Vous aviez commencé maintenant à lire quelques-uns des poèmes mystiques. Permettez-moi de rappeler cette quatrième qasida qui montre les diverses étapes dans la voie de l'ascèse. Elle figure ici dans votre traduction aux pages 10 et 11. C'est le recueillement, puis le silence, puis l'aphasie et la connaissance, puis la découverte, puis la mise à nu. Et c'est l'argile, puis le feu, puis la clarté et le froid, puis l'ombre, puis le soleil. Et c'est la rocaille, puis la plaine, puis le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, passage de la mer Rouge. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie. Et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination. Et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction et la conformation, puis l'apparition divine, puis l'investiture de l'élection. Phrase que tout cela, accessibles à ceux-là seuls pour qui tout ce bas monde ne vaut pas plus qu'un sou, et voix de derrière la porte. Mais l'on sait que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent en un murmure. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles en arrivant à la barrière, c'est mon lot et mon moi, car les créatures sont serves de leurs inclinations. Et la vérité sur Dieu, quand on le constate, c'est qu'il est saint. Quand on constate Dieu, cela signifie-t-il que l'expérience mystique aboutisse uniquement à cet état qui serait celui du constat de la présence indubitable de Dieu? Ou bien faut-il penser que l'état d'union puisse être prolongé, si j'ose dire, au-delà de ce simple fait de constater Dieu, puisse introduire une sorte de voie transcendante à travers et au-delà de ce constat.
Il y a une réponse précisément dans le divan à la page 103. C'est un poème étonnant qui est, je crois, le point culminant de Al-Hajj. C'est d'une conversation qu'on lui rapporte. Quelqu'un lui dit « Commandant, est la route qui mène à Dieu ?» Il répond « Et tariq bayn etnein. » Il n'y a de route qu'entre deux, et ici avec moi, il n'y a plus personne. Et je lui dis « Explique !» Celui qui ne saisit pas nos allusions ne saura être guidé par nos explications. Et il récita « Ah, est-ce moi? Est-ce toi? Cela ferait deux dieux. » loin de moi, la pensée d'affirmer d'eux. Il y a une ipséité tienne au fond de mon néant pour toujours, et mon tout par-dessus toute chose s'équivoque d'un double visage. Où donc est ton essence hors de moi pour que j'y voie clair? Mais déjà mon essence s'est lucide au point qu'elle n'a plus de lieu. Et où retrouver ton visage, objet de mon double attrait, au nadir de mon cœur, au nadir de mon œil? Entre moi et toi, il y a un « c'est moi » qui me tourmente. Ah, enlève par ton « c'est moi » mon « c'est moi » hors d'entre nous deux.
C'est en effet un admirable poème, c'est un admirable texte français, mais nous avons déjà pris un peu de temps. Je voudrais maintenant vous demander d'avoir la gentillesse de vous approcher un peu de nous, car ces textes sont des textes véritablement cryptiques et dans leur éclat, dans leur intensité, il est bien certain qu'ils recèlent un secret qu'il est impossible de pénétrer par l'esprit. C'est un secret qu'il faudrait en quelque manière s'approprier, qu'il faudrait vivre par une expérience parallèle à celle de Hallaj. Nous ne pouvons, nous profanes, que nous y prêter dans le mouvement d'une sorte de désir profond et de nostalgie qui nous porterait à mimer dans l'âme même des états que nous n'avons pas connus, que nous n'avons pas vécus. Je voudrais que vous approchiez un peu de nous et que vous nous disiez quelques mots de ce que vous pensez à propos des autres poètes mystiques, disons de poètes mystiques chrétiens par exemple, comparés à cette poésie de Hallaj qui est si extraordinairement dépouillée.
C'est tout le problème que nous avons en ce moment-ci pour comprendre l'Algérie. Il y a à l'état sauvage, dans la langue arabe, par la tradition musulmane, un témoignage monolithique d'une certaine présence de Dieu brûlante qui n'est pas domestiquée par des sacrements et facilitée par toutes les combinaisons et les ruses de la théologie morale. Il y a cette espèce de calcination. Je ne dis pas que toutes les âmes musulmanes désirent la supporter, mais je sais qu'il y a chez eux, d'une manière terrible, à certains moments, le témoignage. C'est l'idée du témoignage. Nos langues ne peuvent pas témoigner. Je dis souvent que les langues aryennes sont des idolâtres. Nous avons christianisé nos usages, mais nous disons toujours jeudi le jour de Jupiter ou vendredi le jour de Vénus, n'est-ce pas? Les musulmans n'ont jamais eu cela et leur langage est conforme à leur foi. Parce qu'il y a une congénialité très étrange entre l'arabe qui est la plus dure, la plus archaïque des langues sémitiques et la révélation mohammedienne qui est un durcissement d'avant la loi de Moïse, le durcissement du temps des patriarches, où je dirais qu'il n'y a presque plus de promesses parce que les hommes n'en étaient pas dignes et il n'y a que cette présence inaccessible, déchirante et qui tout de même quelquefois comme une blessure, entre dans le cœur de l'homme. Car il est dit chez eux, il y a un verset du Coran d'ailleurs, que ce que peut porter le cœur peut porter ce que le monde et les créations ne peuvent pas porter. Il y a dans le déchirement du cœur, sous cette forme très étrange qui est dit pour le prophète Mohammed et pour beaucoup de mystiques musulmans, il y a une expérience de Dieu qui touche, comme vous le disiez tout à l'heure, au-delà des explications, à cette espèce de conception de, que la femme a sourdement lorsqu'elle enfante, n'est-ce pas? Lorsqu'elle conçoit. Le croyant dans l'islam ne peut pas concevoir Dieu sous une forme directe puisqu'il n'y a pas l'incarnation. Mais il peut le subir comme la foudre. Et il le reçoit comme la foudre en lui-même, n'est-ce pas? C'est le jugement. C'est le problème de la parole sous forme du jugement. L'Église catholique, l'Église chrétienne, a reçu la parole de Dieu que Israël avait révélée. Il l'a reçue sous une forme douce d'un enfant qui est devenu homme et qui est mort pour nous sauver. Et nous le sommes plus ou moins. L'islam recevra la parole divine en plein cœur au jugement. D'ici là, il n'y a pas de moyen terme. Alors, l'islam, par définition, ne devrait pas avoir de mystique banal. Et évidemment, il en a eu, qui sont des gens très intelligents, des paramystiques. Mais je continue à penser qu'un cas comme Hallaj est un cas tout à fait exceptionnel et crucial dans l'islam, car il a poussé à la limite ce respect de l'inaccessibilité de Dieu, et en même temps, cette... Il disait d'ailleurs, ne te tolère pas sans l'aimer et ne te vante pas de l'aimer.
Est-ce que l'on pourrait dire, sans trahir la pensée de Hallaj et sans trahir la vôtre, qu'en somme, pour parler très vulgairement, l'islam demeure branché sur la première personne de la Trinité, sur la personne du Père, du Dieu caché, tandis que les chrétiens sont en quelque sorte dans l'ignorance de la première personne, celle du Père, et qu'ils sont en contact avec la deuxième personne et la troisième personne de la Trinité.
La troisième, je vous fais une arrêt. Je passe souvent pour antisémite, et je ne le suis pas du tout. Et je voudrais dire que la troisième, comme l'a dit profondément Léon Blois, touche Israël. Il y a, Israël ne croit plus ni en la première personne et n'a jamais voulu croire dans le Messie, la seconde. Il leur reste l'espérance. L'espérance est la chose la plus déconcertante qu'il y ait. C'est ce dont l'islam manque un peu. N'est-ce pas ? Il y a cette amertume de la loi paternelle sans miséricorde, une loi qui n'ose même pas dire paternelle. Chez les chrétiens, il y a cette chose atroce, c'est que nous aimons Dieu sans le croire, ce qui est affreux, n'est-ce pas, laïque ? Deceived husband, comme disait Shakespeare, ce qui est abominable, n'est-ce pas ? La chrétienté se livre à toute espèce d'œuvre de charité, mais ne croit pas en Dieu pour lequel elle l'est fait. Israël, c'est encore plus atroce, c'est le supplice de l'espérance.
C'était Des idées et des hommes, deux entretiens de Jean Amrouche avec Louis Massignon sur Alhadj. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 15 et 22 octobre 1955. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr. Must have been.